est beau, tout le monde il est gentil.
Qu'entendez frontières, le commerce mondialise, que sous sa bannière, toutes les nations agonisent. Quand pour seule culture, c'est le règne de l'argent, que sans fioriture, on vit rationnellement. Dans ce monde épanoui, libéral son parti pris, où l'argent nous réunit, moi je me dis. Le monde il est beau, le commerce réjouit.
Le monde est beau, le monde il est gentil.
En 2016, un collectif formé par quatre lieux de la vie associative lausannoise organisait une série d'événements ayant trait à la responsabilité des multinationales. Une programmation de plusieurs événements et manifestations étalée sur 6 mois qui coïncidait avec le dépôt de l'initiative pour des multinationales responsables. Radio Django s'était associé avec une série de 4 émissions sur le sujet. Nous avons repêché des entrailles de la radio, une de ces émissions qui est encore d'actualité. Cela se passait le 3 mai 2016.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Autrement, ça va est un collectif formé par 4 espaces de débat lausannois, l'espace Dickens, la maison de quartier Sougar, Alliance Sud Infodoc et Pôle Sud. Jusqu'au mois d'octobre, ces lieux vous invitent à découvrir une série d'événements autour d'un thème commun consacré aux multinationales. Au nom du profit, tout est permis. Django s'est associé à cet événement pour vous proposer quelques regards radiophoniques. Aujourd'hui, nous vous proposons de mieux comprendre le négoce du textile. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Fabio, une collaboratrice et un collaborateur de la Déclaration de Berne.
Oui, Déclaration de Berne qui va bientôt s'appeler Public Eye, puisque l'Assemblée Générale du 21 mai, c'est-à-dire samedi dernier, a décidé de changer le nom de l'association. Public Eye, qui rentrera en vigueur dès le mois de septembre 2016. On va parler en effet du négoce du textile aujourd'hui avec Olivier Longchamp, qui est avec nous ici en direct. Bonjour Olivier.
Bonsoir.
Et Géraldine Viré, qui dans cet enregistrement que je vous propose d'écouter tout de suite, nous dresse un tableau général des conditions dans lesquelles est façonné le textile dans le monde.
L'industrie textile, c'est un secteur qui à l'heure actuelle est profondément inégalitaire. On a vraiment perdu ce lien avec les personnes qui fabriquent les vêtements. Aujourd'hui, on est dans un système de la fast fashion, donc la mode rapide à l'image des fast-food, McDonald's et autres, où on veut produire toujours plus vite, avec des vêtements qui ne sont pas faits pour durer. Les vraies victimes de ce système, ce sont les personnes dans les pays producteurs qui travaillent pour des salaires de misère. C'est le cas en Asie, hein, on connaît bien l'exemple du Cambodge, l'exemple du Bangladesh, mais c'est aussi le cas dans les pays européens, la Macédoine, la Roumanie, où on estime qu'il faudrait que le salaire minimum légal soit 5 fois plus élevé pour que les gens puissent gagner de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Donc on est face à des gens qui travaillent et qui travaillent beaucoup, mais qui sont incapables de subvenir à leurs besoins avec ce salaire. Parmi les autres problèmes qu'on voit dans l'industrie textile, il y a toute la question de la sécurité, et ça c'est beaucoup plus fort dans les pays asiatiques, notamment au Bangladesh, on l'a vu avec la tragédie du Rana Plaza.
La catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh, le vrai prix de notre t-shirt à 5,90 francs. Un atelier textile qui s'effondre, 5 000 travailleurs pris au piège, plus de 1 000 morts.
On a des personnes qui travaillent dans des usines qui ne sont pas sûres, qui manipulent aussi souvent des produits qui ne sont pas sûrs. Face à ces problèmes, les entreprises, elles mettent beaucoup de temps à réagir. Hein. Quand on regarde la question du salaire vital, on voit qu'aujourd'hui, près de 90% des entreprises textiles ne payent pas un salaire vital à leurs couturières. Elles prennent des mesures, mais qui sont souvent des mesures plutôt de communication. Donc beaucoup de belles paroles, mais peu d'actes concrets sur ces questions. Le principe du salaire vital, c'est un moyen de calculer combien concrètement il faudrait gagner pour pouvoir nourrir une famille, donc couvrir les besoins de base. Quand on dit une famille, c'est 2 adultes, 2 enfants. Besoin de base, ce sera le logement, les vêtements, la santé, le loyer, le transport. Combien il faudrait gagner dans ces pays? Et puis on a une méthode de calcul qui permet de comparer. Maintenant, on voit qu'au Cambodge, au Bangladesh, par exemple, le salaire minimum légal correspond seulement à 20% de ce qu'il faudrait, donc il faudrait 5 fois plus. Et cette situation, elle est plus ou moins exactement la même dans les pays d'Europe de l'Est, comme la Roumanie, la Macédoine. Ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment une concurrence maintenant au niveau international pour attirer ou pour garder les contrats de l'industrie textile. Ça met une pression sur ces pays, qui sont souvent des pays pauvres, qui dépendent beaucoup de l'exportation, pour ne pas améliorer les conditions de travail dans leur pays. Donc pour ne pas perdre des contrats, les gouvernements peinent à augmenter les salaires minimums. Le consommateur, dans ce tableau, il est pris dans un système où on lui fait toujours plus croire qu'il doit acheter des vêtements. Il doit en acheter beaucoup, il doit en acheter souvent. Et il est un peu démuni. Nous, ce qu'on recommande aux gens, c'est de réfléchir vraiment à leur mode de consommation. Première chose, c'est de se dire, bon, on va éviter la surconsommation, on va résister à ce message publicitaire qui nous pousse à acheter, et puis acheter plutôt des choses de qualité que beaucoup de vêtements. Et puis surtout, faire entendre sa voix, donc dire concrètement aux entreprises, de différentes manières, que ce soit des pétitions, que ce soit dans les magasins directement, aussi régulièrement que possible, de dire que finalement, les conditions dans lesquelles les personnes qui fabriquent les vêtements se passe, c'est aussi important pour nous, c'est un critère d'achat très important, central, et on veut que ces conditions de travail s'améliorent. Alors, la déclaration de Berne sur son site internet, elle a un dossier conséquent donc, sur tout ce qui est conditions de travail dans l'industrie textile, avec aussi une application Fair Fashion qui donne un aperçu des engagements des firmes en matière de salaire vital et de conditions de travail en général.
Géraldine Viret, directrice de la déclaration de Berne, que Fabio, tu as rencontré tout récemment ?
Hier même. Voilà, après ce survol général des conditions de production du textile de par le monde, nous revenons en Suisse avec toi, Olivier Longchamp, qui a enquêté sur ce secteur ici dans notre pays. Alors, il faut dire qu'en Suisse, on fabrique peu de textile, en tout cas pas dans la proportion et dans les conditions qu'on vient de découvrir dans cette introduction. Et pourtant, notre pays est devenu une destination très prisée des géants de la mode. Pourquoi cet attrait pour la Suisse, Olivier ?
Oui, donc c'est quelque chose qui nous a interpellés aussi. On s'est rendu compte qu'on avait toute une série de grands groupes internationaux de la mode, des groupes comme par exemple Armani, Versace, Gucci, North Face par exemple, qui s'étaient installés en Suisse au cours des 10-15 dernières années, plus précisément au Tessin. Et on s'est posé exactement cette question, mais au fond, pourquoi ces sociétés viennent ici ? Elles ne sont pas là pour produire, qu'est-ce qu'elles viennent faire ? Et la réponse à cette question, après avoir cherché un peu, on s'est rendu compte que ces sociétés venaient ici essentiellement pour des raisons fiscales, qu'elles employaient relativement peu de monde à l'échelle de leur groupe, mais qu'elles fiscalisaient leurs activités ou le bénéfice de leurs activités en Suisse.
Ce sont des pratiques illicites et à dénoncer.
Non, ce n'est pas des pratiques illicites, c'est des pratiques qui sont contestables, c'est des pratiques qui sont illégitimes. Il faut se rendre compte qu'on est avec des sociétés qui produisent ailleurs, qui réalisent la valeur ajoutée ailleurs, qui en Suisse, par contre, vont fiscaliser des bénéfices sans commune mesure avec l'activité économique réelle qu'elles ont ici. Mais c'est des pratiques qui sont, jusqu'à plus ample informé, des pratiques tout à fait légales. On est dans l'optimisation fiscale légale, problématique par contre, puisqu'elle soustrait en fait de la substance fiscale à des pays qui en auraient besoin.
Alors, est-ce que tu peux nous montrer, nous expliquer un montage qu'une de ces grandes marques réalise pour justement échapper au fisc ou trouver une optimisation fiscale ici chez nous ?
Alors, il existe une infinité de ces montages. Ces montages sont souvent assez compliqués sur le plan technique. Par ailleurs, il est extrêmement difficile d'avoir des informations précises sur la façon dont ces montages sont réalisés effectivement. Donc, on est assez vite obligé de présenter ces montages sur un plan assez théorique. Mais une des façons de le comprendre assez intuitivement, je crois, dans l'industrie textile, c'est un montage typique, qui n'est pas d'ailleurs uniquement l'apanage de la Suisse, mais ça consiste à assortir la marque d'une valeur ajoutée importante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va fabriquer un jeans, par exemple, en Chine. On va le faire acheter par une société qui est en Suisse, qui va le revendre, je ne sais pas moi, ensuite en Allemagne, peut-être, où il sera commercialisé. Et on dira, bon, ce jeans, quand il est acheté en Chine, il vaut peut-être 20 francs. Quand il est vendu en Allemagne, il en vaut 100, parce qu'entre-temps, il a eu la marque dont le droit appartient à la société suisse. Tout ça est complètement immatériel. C'est le même jeans qui est... Il a déjà l'étiquette avec la marque au moment où il part de Chine. Mais on est simplement avec un bénéfice qui est lié à la transaction commerciale effectuée par une société qui peut n'être qu'une coquille vide, au fond, située en Suisse. Et ensuite, on a les bénéfices liés à cette opération qui sont fiscalisés en Suisse.
Donc, cette entreprise, elle a un siège au Tessin, comme tu disais tout à l'heure. C'est une coquille vide et elle est considérée comme société principale. Et c'est avec ce titre-là qu'elle échappe à la fiscalité, à une fiscalité justifiée, disons.
Alors, en Suisse, il y a plusieurs facilités qui sont offertes par le système fiscal qui permettent ce type de montage. Ce n'est pas uniquement du point de vue des marques. Hein, on peut imaginer toute une série d'autres subterfuges. Ouais. Semblables, qui ont finalement un effet semblable. En Suisse, la facilité principale qui est offerte de ce point de vue-là dans l'industrie textile, c'est effectivement le bénéfice d'un statut particulier qui s'appelle le statut de société principale. Et la plupart des sociétés sur lesquelles on a enquêté dans le cadre du textile au Tessin bénéficiaient, d'après ce qu'on a pu voir, de ce statut fiscal.
Est-ce que le Tessin, c'est le seul canton en Suisse dans lequel on trouve ce type de pratique, ou bien, en tout cas dans le textile, parce que pour toute une série d'autres produits, on en trouve dans d'autres cantons, mais pour ce qui est du textile, c'est le Tessin principalement ?
Oui, alors clairement, on a donc le montage, le statut fiscal dont bénéficient ces sociétés au Tessin n'est pas du tout exclusif au Tessin, on le retrouve ailleurs, mais la présence dominante de secteurs de la mode mondiale, elle est clairement au Tessin. C'est clairement au Tessin que ces sociétés sont situées, oui.
Donc tout le monde, justement, autorité cantonale, surtout comme tu viens de le dire, reste discret sur cette branche qui génère des chiffres d'affaires exorbitants. On parle du secret bancaire qui aurait enfin du plomb dans l'aile, mais le secret fiscal, on est bien dans le secret fiscal.
Non, pas tout à fait au sens strict du terme. Le secret fiscal, c'est le fait que lorsqu'un contribuable discute avec l'administration qui le taxe, les communications qui ont lieu entre lui et cette administration, dans le cadre de l'établissement de sa déclaration d'impôt, ne sont pas publiques. Et il y a de bonnes raisons de faire les choses ainsi, et il ne s'agit pas de ça. Ici, on est avec quelque chose de plus large. On est avec une pratique qui est réellement une politique de développement économique tout à fait assumée. Le Tessin a souhaité attirer de telles sociétés et faire qu'elles se développent au Tessin en leur offrant des exonérations fiscales extrêmement importantes qui sont considérées, et là c'est simplement les pratiques, les standards du FMI au fond qui s'appliquent en matière de finances publiques, comme des subventions. Quelque part, le fait de ne pas taxer ces sociétés, c'est assimilable à une aide d'État. Et sur ces chiffres, sur l'ampleur de ces aides d'État, il a été absolument impossible d'obtenir la moindre information consolidée.
Puis alors, vous les avez obtenues comment, ces informations, notamment pour créer vos dossiers dans le journal de la déclaration de Berne vers un développement solidaire ?
Alors, on n'a pas obtenu d'informations chiffrées consolidées pour l'ensemble de la branche. On a fait un certain nombre d'estimations sur la base de paramètres qui nous ont permis de nous donner un ordre de grandeur de l'ampleur de cette activité, des taux auxquels ces sociétés étaient fiscalisées. Donc, on a pu, si on veut bien, estimer un peu l'âge du capitaine pour ce qui a trait à l'ensemble du secteur. Par contre, on a pu être beaucoup plus précis en ce qui concerne un de ces groupes. C'est le groupe Kering, donc anciennement Pinot Printemps Redoute, qui est un groupe extrêmement important à l'échelle mondiale, avec disons des activités vraiment mondiales dans le secteur de la mode. C'est un groupe français coté à la Bourse de Paris. Et il se trouve que, par un biais de la législation lié au fond au droit des sociétés luxembourgeoises, on a réussi à obtenir un rapport d'activité luxembourgeois de la holding qui chapeaute la société du groupe Kering qui est au Tessin et qui fiscalise en fait l'essentiel des bénéfices réalisés à l'échelle du groupe. Et là, ça nous a permis, mais dans un cas très précis qui est celui de ce groupe Kering, d'avoir des estimations beaucoup plus précises sur l'ampleur en fait de ces pratiques d'optimisation fiscale.
C'est vraiment des enquêtes à la Sherlock Holmes.
Un peu, c'est du journalisme d'investigation. On a ici on est assez vite tombé sur des chiffres qui nous semblaient extrêmement intéressants en tant que tels de publier. On n'est pas allé très très loin. Je pense qu'avec des méthodes d'investigation un peu plus poussées, en allant effectivement aussi rencontrer des gens, etc., on pourrait trouver davantage d'informations. Mais ce qui est choquant, c'est pas le fait qu'il faille enquêter de ce point de vue-là pour trouver ces chiffres-là. C'est plutôt le fait que absolument rien de à ce sujet-là n'est publié ni par le secteur concerné lui-même au Tessin, ni par les sociétés, ni par les autorités. C'est ça qui est au fond choquant, c'est cette opacité et le fait que quelque part on doive se baser sur des bizarreries de la législation des sociétés au Luxembourg pour avoir des informations à ce sujet-là.
Mais en fait, c'est vous qui faites ce travail de mise en lumière. Voilà.
Oui.
Je lisais dans un de tes articles que l'OCDE a adopté un plan destiné à rendre plus difficile ces manipulations, ces montages financiers. Donc la Suisse, toujours d'après ce que tu dis, sur cette pression internationale, s'est engagée à supprimer les régimes fiscaux cantonaux.
Oui, c'est juste.
Mais, et puis notamment dans le cadre de la troisième réforme des entreprises, on en parlera peut-être tout à l'heure, la RIE 3, que le canton de Vaud vient d'accepter. Bon, il y a un échange donc à ce niveau-là. Par rapport aux multinationales, aux sociétés, parce qu'il est prévu une baisse de taux d'impôt via cette RIE 3. Et ça ne revient pas au même résultat, en fait.
Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Donc d'abord, il y a deux choses assez différentes. D'une part, il y a un processus international en œuvre depuis maintenant 2007-2008, dont BEPS est une partie. Ce n'est pas le seul élément de cette évolution du dossier à l'échelle internationale qui vise à quelque part contraindre un peu plus les sociétés multinationales à fiscaliser quelque part les bénéfices résultant de leurs activités à l'endroit où elles réalisent réellement une activité économique. BEPS est une partie de ce plan, de cette évolution internationale dont les déterminants doivent être recherchés d'abord dans la crise des finances publiques qui a secoué les pays développés depuis 2007-2008, depuis la crise financière et la crise économique de 2007-2008. Et dans le cadre, cette évolution internationale, il y a eu des pressions assez fortes qui ont été faites sur la Suisse pour que la Suisse abolisse ses statuts fiscaux cantonaux spéciaux, ce qui est une revendication ancienne de la déclaration de Berne déjà. Et la Suisse, finalement, mais sous une forte pression internationale, non seulement de l'OCDE, mais aussi de l'UE, a dû se résoudre effectivement à signer une déclaration disant, dans le cadre de la troisième réforme de la fiscalité des entreprises, nous allons abolir ces régimes fiscaux spéciaux. Et ça, c'est une bonne chose. C'est clairement une bonne chose. Il est à regretter, quelque part, qu'il ait fallu cette pression internationale pour supprimer une pratique qui était dénoncée en Suisse de longue date et problématique, il me semble, dès qu'on la regarde un tout petit peu sérieusement. Maintenant, cette réforme de la fiscalité des entreprises, elle-même, c'est un objet distinct, c'est un peu une conséquence de ça, mais c'est un objet un peu distinct qui se compose elle-même de deux étages différents. Je suis désolé, c'est un petit peu compliqué, mais d'une part, on a l'étage fédéral, où on a une réforme de la fiscalité des entreprises qui, quelque part, détermine comment on peut, on doit imposer les entreprises à l'échelle cantonale. Puis ensuite, on a toute une série de réformes cantonales. Et il est vrai, pour se concentrer maintenant uniquement sur la réforme fédérale, que cette réforme, d'un côté, elle supprime ces régimes fiscaux spéciaux problématiques, mais d'autre part, elle ouvre toute une série de champs qui vont permettre aux sociétés multinationales de continuer à faire de l'optimisation fiscale en profitant de dispositions légales helvétiques. Par exemple, cette fameuse license box, cette imposition préférentielle des revenus provenant de la recherche et du développement. Mais pas seulement, on prévoit la déduction des intérêts notionnels. On parle par exemple d'une taxe au tonnage qui devrait permettre aux personnes, aux sociétés faisant du shipping, donc du négoce de matières premières, d'être imposées de façon préférentielle. Donc il y a toute une série d'autres facilités qui sont offertes par cette réforme de la fiscalité des entreprises. Après, au niveau cantonal, il y a encore une adaptation des taux cantonaux frappant les bénéfices des entreprises, c'est encore une autre histoire. Mais disons, la grosse question pour se concentrer sur le projet de réforme fédérale, c'est de savoir est-ce que finalement les lacunes fiscales qu'on bouche sont plus ou moins importantes que les nouvelles lacunes fiscales qu'on ouvre. Et ça, c'est une question sur laquelle il est extrêmement difficile de se faire un avis de chiffrer.
Ouais. Ouais. Est-ce que l'initiative pour les multinationales responsables qui sera déposée cet automne et à laquelle la DB soutient de toutes ses forces, est-ce qu'elle touche aussi quelque part le domaine dont on vient de parler ou on est dans un autre domaine, celui fiscal, où il y a tout un travail de lobbying différent à faire?
Non, on est vraiment... Alors l'initiative pour les multinationales responsables se concentre réellement sur les violations de droits humains.
Oui, et environnementaux.
voilà, sur ce que les sociétés doivent faire pour éviter de commettre ou d'être complices de telles violations. Et on est très loin, au fond, des questions fiscales et de la position des sociétés.
Merci beaucoup, Olivier Longchamp, de nous avoir parlé largement de cette question du négoce du textile. Gros sujet, hein, qui nécessite pas mal de temps. On pourrait encore en parler des heures. On rappelle que vous êtes collaborateur à la déclaration de Berne. Et puis, on remercie également Géraldine Viret, qu'on entendait tout à l'heure, Fabio, que tu as pu rencontrer. Donc, à toi.
Des multinationales responsables pour des consommateurs irresponsables? Sans vouloir remettre en cause la bonne foi des auteurs de cette initiative, je dois toutefois admettre que celle-ci me laisse passablement dubitatif. À l'heure où une hécatombe de traités pleuve sur l'ensemble des nations pour enlever à celle-ci toute autorité, et ces traités justement conçus, à l'origine et pour la plus grande partie, par des multinationales défendues par ceux-là même, les autorités politiques, qui devraient défendre l'intérêt public, on est en droit de se demander quelle peut être l'utilité avérée d'une telle initiative. Car exiger des multinationales un comportement responsable ne reviendrait-il pas finalement à exiger d'un mafieux qu'il renonce à ses pratiques ? Peut-on, à l'heure actuelle où amendements et décrets décidés en toute opacité ne cessent de détourner les derniers vestiges d'une législation dite démocratique en faveur des intérêts économiques privés de conglomérats devenus, par alliance avec l'État, les seuls véritables gouvernants ? Peut-on sincèrement attendre d'une telle initiative qu'elle change véritablement quoi que ce soit à cette prise de pouvoir unilatérale de l'économie sur la vie publique ? J'y vois pour ma part celui d'un risque, celui de se donner une fois de plus bonne conscience en souscrivant à l'initiative, sans chercher à changer quoi que ce soit en égard à nos comportements à l'égard de ces monstres de l'économie. Car, je vous le demande, en quoi ceux-ci pourraient-ils se sentir menacés d'une quelconque manière dès lors que nos comportements consuméristes continuent à garantir leur puissance en alimentant les caisses qui leur permettent d'exercer ce pouvoir abusif ? La véritable initiative ne devrait-elle pas plutôt, mais là je vois les défenseurs de la liberté de consommation se dresser sur leurs grands chevaux, chercher à définir un seuil de consommation maximum que l'on pourrait, pourquoi pas, là aussi rendre obligatoire par l'un de ces décrets d'état d'urgence que nos gouvernements ont pris l'habitude de concocter à tort et à travers dans le parcours des nécessités inéluctables liées à la croissance favorable à tous. Car soyons raisonnables, et admettons qu'ayant mis un loup dans la bergerie, lui garantissant ainsi un mouton entier à chaque repas, pouvons-nous attendre de ce loup qu'il renonce de lui-même à ce privilège ? Ou ne devons-nous pas plutôt sortir le loup pour le renvoyer aux aléas d'une chasse à la survie un tant soit peu moins confortable de celle qu'il envisage pour tout autre que lui-même par exemple ? Le risque de cette initiative, je ne peux m'empêcher de le voir dans le champ d'une hypocrisie qui consisterait une fois de plus à parler de vertu pour occulter le fait que nos comportements ne se préoccupent plus. J'ai le sentiment que l'unique façon qui nous est laissée actuellement pour tenter de modifier en tant soit peu cette trajectoire de la démesure qui s'inscrit désormais dans une grande majorité des activités humaines est de chercher à appauvrir chacune des dimensions sur lesquelles ce système repose. Moins de concurrence pour moins de production pour moins de compétitivité pour moins de vitesse pour moins de loisirs organisés et, finalement, moins de vitesse et de loisirs organisés pour plus de temps de vie véritablement habité. Car la chaîne actuelle qui préside à l'organisation de nos existences est cette chaîne d'asservissement des humains qui garantit un système de production de moins en moins utile aux humains. Et je ne pense pas que ce soit en demandant poliment de l'arrêt de cette chaîne que nous l'obtiendrons. Elle s'arrêtera si, dans nos actes, nous l'arrêtons. Et si la formule est excessive, il n'en reste pas moins qu'elle contient sans doute, en tous les cas en partie, le mode opératoire. Pourtant, loin de chercher à l'arrêter, nous cherchons pour cette chaîne de nouveaux agréments. Pour exemple, il est actuellement souvent question d'un revenu de base minimum inconditionnel, censé garantir à tous l'accès à un minimum vital décent. Or, Dans ce minimum vital figurent désormais, au moins de façon tacite, l'automobile et la télévision, l'ordinateur et le téléphone portable, sans doute bientôt eux aussi, pour ne citer que ces exemples. Aussi, ne pourrait-on reconsidérer la formule du minimum vital à l'aune d'une réflexion salutaire et renvoyer, par exemple, ces objets dans le contexte de biens de consommation de luxe superflus qu'ils n'auraient sans doute jamais dû quitter. Car dans la question de l'égalité, il reste à considérer quels sont les points de base qui doivent la constituer si l'on ne veut pas retomber dans les excès de production qui, eux, ne peuvent que générer rapports de puissance et inégalité dans leur perspective inévitable de course à la puissance et au profit. De fait, cette initiative du revenu de base pourrait être intéressante de perspective d'ouvrir le débat au sujet des inégalités et de ce qui les génère. Elle pourrait même être couplée à une autre suggestion qui serait celle de proposer une dépense maximum du superflu, ceci dans l'objectif de mettre en rapport la logique des exigences de propriété qui s'articulent dans la consommation avec cette nouvelle exigence que l'excès de consommation revendique en souhaitant des multinationales que celles-ci deviennent responsables. Mais de quoi au juste, si ce n'est de l'irresponsabilité des collectivités publiques qui consentent à être elles-mêmes progressivement transformées en simples potentiels de consommation pour les besoins de l'inénarrable, inéluctable marché. Je serais donc particulièrement favorable, pour donner suite à cette initiative qu'on peut soutenir ou non, mais qui revêt l'avantage d'ouvrir à nouveau le débat au sujet des inégalités, à une très large surenchère de la discussion, afin que celle-ci ne soit clôturée par son aboutissement ou non. Ceci afin d'éviter que tous ces débats ne sombrent à nouveau dans l'oubli généré par la profusion médiatique, au motif que toutes ces propositions se révéleraient de toute façon utopiques, voire franchement contre-productives. Car, soyons-en certains, quelle que soit l'issue de cette démarche, la très vaste question de l'exploitation de l'humain par l'humain n'en sera pas pour autant résolue. Elle ne peut l'être que si nous prenons la réelle mesure de ce qu'une volonté d'y changer quoi que ce soit peut avoir comme implication dans le champ de nos modes de vie individuels et que nous acceptons cette perspective. Dans le cas contraire, toutes ces belles intentions se révéleront à nouveau pour ce qu'elles sont, à savoir des vœux pieux exprimés pour satisfaire notre bonne conscience. L'homme des cavernes prenait chaque jour le risque de survivre jusqu'au lendemain. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour tenter de renouer avec cette réalité, toujours existante, mais particulièrement bien occultée par une illusion de sécurité qui ne tient qu'au fil précaire d'un confort matériel devenant de plus en plus aléatoire, lui-même conjugué au sécuritarisme croissant et de moins en moins sécurisant qui en découle.
Au terme de ce billet, nous remercions Nina Richard pour avoir prêté sa voix. À la conception, réalisation de cette thématique et à sa mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Rédacteur responsable, Patrick Rion. Nous remercions également l'équipe de Radio Django qui nous permet de poursuivre l'émission. À la semaine prochaine.